pouvoir possède la radio et la télévision.
Eh bien, c'est maintenant le grand rendez-vous.
Nous comptons sur la bonne volonté et sur la compréhension de tout le monde.
La voix off.
Ceux qui votent pour le cancer sont toujours les mêmes. La droite et l'extrême droite vont toujours voter les lois qui favorisent le cancer. Il y a certains élus du centre qui ont voté contre la loi Duplomb.
La loi Duplomb, du nom de ce sénateur de droite, gros éleveur industriel, membre de la pieuvre agricole FNSEA, au service du lobby agro-industriel, une loi Duplomb contre laquelle en 2025, plus de 2 millions de personnes ont signé une pétition. Résultat, août 2025, toute la loi Duplomb est passée, sauf l'acétamipride, néonicotinoïde tueur d'abeilles, mais sinon c'est open bar pour ferme-usine, méga-bassines et autres mesures écocidaires et tueuses de paysannerie. Début 2026, malgré les 2 millions de signatures contre, Duplomb remonte à la charge pour imposer l'acétamipride. Or, tous les constats scientifiques le démontrent, l'épidémie de cancer qui frappe toute la population est notamment due à l'utilisation de poisons chimiques qui ont pollué les sols, l'eau, l'air. Et il y a donc des poisons mortels dans ce que nous mangeons, buvons et respirons.
Ça fait 60 ans, on dit, bah non, en fait, quand on met des produits toxiques et dangereux fabriqués précisément pour tuer la vie, bah en fait, après, ça tue la vie. Ça bousille les sols, ça bousille le climat, ça est en train d'éclater la planète. La première fois dans l'histoire de l'humanité qu'en fait, l'être humain est en train de s'autodétruire. Il y a des gens qui disent, bah ouais, c'est normal, en fait, là, c'est ok, notre mode de fonctionnement, c'est de s'autodétruire. Et quand on dit, nous, on n'est pas d'accord et on a juste envie de vivre, on est des éco-terroristes. Dire qu'on est contre la guerre et contre la mort, eh ben, c'est risquer de finir à l'hôpital, en plus de finir au tribunal. C'est ça.
Salut les amis, c'est JBD pour Polémix et la voix off.com et pour votre radio encore libre préférée. Aujourd'hui, vous allez passer une heure avec Caroline Proust, membre du collectif Cancer Colère, qu'on a rencontré fin mars 2026 à Mel lors des commémorations organisées par Bassine Non Merci pour marquer les 3 ans de la féroce répression policière de Sainte-Soline. Bonjour Caroline.
Bonjour Jean-Baptiste.
Mars 2026, Cancer Colère est un jeune collectif qui fait déjà beaucoup parler de lui. Vous aurez peut-être vu ces images de Fleur Breteau, malade du cancer, sans cheveux, invectiver à l'Assemblée nationale les députés qui ont voté la mortifère loi Duplomb.
Le collectif existe pour de vrai depuis mai-juin 2025. Mais c'est en janvier 2025 qu'est né le cri de Cancer Colère. C'est le moment où Fleur Breteau était en chimio et a vu passer l'information selon laquelle le Sénat votait la loi Duplomb. Et ce truc est assez insupportable quand on est en chimio et qu'on se dit là, en fait, pendant que moi je suis en train de vivre ce moment, il y a des gens qui viennent d'appuyer sur un bouton pour voter pour qu'il y ait plus de cancers, plus de malades. Elle a eu une réaction spontanée de colère, tout simplement, et ces mots sont sortis, cancer, colère, c'est il faut faire quelque chose de ça. Qu'elle a commencé à s'entourer pour former ce collectif qui, on peut dire, a été constitué vraiment vers mai l'année dernière, donc ça fait même pas un an. On a entendu parler de cancer colère au mois de juillet, le jour de l'adoption de la loi Duplomb à l'Assemblée nationale, quand cette même Fleur a accompagné d'autres militants, dont Greenpeace, dont d'autres, étaient invités à l'Assemblée. Donc, il y a eu le débat sans vote là, pour la pétition, là c'était le vote sans débat, enfin bon, bref. Cette mascarade complète, moment où les députés ont confirmé qu'ils votaient pour continuer à semer le cancer, elle a crié des tribunes « Vous êtes les alliés du cancer et nous le ferons savoir ». C'était spontané, c'était pas du tout préparé. Simplement, à un moment, elle a vu le truc arriver et elle s'est dit « Là, en fait, je suis la seule à avoir la tête du cancer » parce qu'elle était encore en chimio et qu'elle avait plus de cheveux et qu'elle s'est dit « Non, mais là, en fait, il faut faire quelque chose, il faut le dire, il faut que ça se sache et il faut les montrer du doigt ». Quand elle a dit ça, elle a montré le rang de la droite et de l'extrême droite qui sont les premiers. Non seulement ils se réjouissaient de l'adoption de ce texte, mais en plus, quand elle a crié ça, ils ont ri. Ils ont ri. Ils se sont clairement moqués de sa réaction. Et ce mépris était déjà là. Ils ont ri, quoi. À ce moment où nous, on était tous retournés.
pour 316 contre 223. L'Assemblée nationale a adopté la proposition de loi.
Le cancer, c'est la deuxième cause de mortalité chez les enfants après les accidents. Il y a 6 cancers qui sont en forte hausse chez les jeunes de 15 à 39 ans. La France détient le record du monde de cancer du sein. La loi du plomb, si elle est votée, c'est un détonateur. Mécaniquement, répandre de l'acétamipine sur 500 000 hectares en France, ça va signifier contaminer à leur insu des milliers de personnes qui vont développer des pathologies. Des femmes enceintes qui sont aujourd'hui bien portantes, dans quelques mois, elles vont contaminer leur fœtus sans savoir où ni comment. Voilà, c'est ça qu'on nous impose avec la loi du plomb.
Le 8 juillet, j'étais en chimio également. Quand j'entends fleurs, j'étais dans ma cuisine et je revois ce moment. Et tu vois, enfin, là, j'en parle et ça m'émeut. Et la fatigue aussi, donc ça monte là. Mais c'était incroyable, en fait. Quand elle a dit ça, je me suis dit, mais c'est ça. Elle a mis le doigt sur le truc, elle a tout compris. La lutte est là. La vraie naissance de cancer colère, c'est le 8 juillet. C'est le cri du... C'est pas du cœur, c'est des tripes de fleurs qui a résonné dans chacun d'entre nous. Et on s'est dit, bah ouais, la lutte, elle est là.
Cancer colère pourrait hélas devenir un grand mouvement, alors très fédérateur, même des gens qui ont des divergences d'analyse sur tout un tas de trucs.
Mais
en fait, le cancer, lui, il s'en fout de ce que tu votes et de ce que tu penses.
Tu mets le doigt sur un truc, effectivement, c'est un collectif qui est impartisan, éminemment politique, bien entendu, mais impartisan, et on tient à ça, parce qu'effectivement, comme tu dis, on s'aperçoit qu'on vote pas tous pareil. Dans cancer colère.
Le cancer ne frappe pas cool, que les gens de gauche.
Ben non,
c'est incroyable.
On ne vote pas tous pareil. Ce qu'on constate, c'est que les gens qui votent pour le cancer sont quand même toujours un peu les mêmes. Sans aucune restriction, la droite et l'extrême droite vont toujours voter les lois qui favorisent le cancer. Voilà. Au centre, ça dépend.
Pourtant, le centre est de droite.
Le centre est de droite, sauf qu'il y a des élus centristes qui ont une vie, qui sont obligés à un moment d'être dans le monde et de constater, et soit parce qu'ils sont en milieu rural et qu'ils sont proches et qu'ils savent des choses et qu'ils voient des choses. Il y a certains élus du centre qui ont voté contre la loi du plomb. Mais c'est important quand même de dire que ceux qui votent pour le cancer sont toujours les mêmes.
Pesticides, herbicides, fongicides, toutes ces molécules en cide sont faites pour tuer. Et ça fait belle lurette que les scientifiques nous ont alertés sur la dangerosité de cette chimie mortifère qui participe à l'actuelle épidémie de cancers et autres maladies. Or, on est confronté à un phénomène révoltant et fascinant, le déni de science. Pour les empoisonneurs, il suffit d'affirmer que la science se trompe pour imposer ses poisons.
Ça fait 60 ans qu'on sait que... un biocide, ça tue la vie, en fait, enfin, on le sait, même étymologiquement. Enfin, il y a déjà des indemnisations qui existent pour les agriculteurs qui sont contaminés par les pesticides et qui sont malades. Donc c'est bien qu'on le sait, puisque c'est déjà reconnu. Pour certains malades, riverains, tout ça, bon, il existe certaines indemnisations, on le sait. Mais après, on peut parler pendant longtemps de toute la littérature scientifique. C'est un autre sujet, je peux en parler aussi sans problème pendant longtemps. Mais c'est qu'au-delà de ça, en fait, des pesticides et de ce cri, et quand je dis la lutte, elle est là, c'est que ce n'est pas uniquement une question de pesticides, de poisons qui sont dans la terre, dans l'air, dans l'eau. Donc pas uniquement dans la carotte qu'on va chercher chez le maraîcher. On peut aller chercher une carotte bio chez le maraîcher à côté s'il y a des pesticides dans l'eau qu'on boit. S'il y a 140 tonnes de pesticides dans les nuages, on sort de chez soi, on s'en prend dans la tronche. Il y en a dans l'air. Mais au-delà de ça, c'est un système, c'est un modèle économique qui repose uniquement sur ces produits chimiques. Et que ces produits chimiques, c'est pas uniquement l'empoisonnement de nos corps et de celui des agriculteurs. C'est aussi les questions du colonialisme chimique, c'est pareil, je peux en parler, et c'est des questions qui sont beaucoup plus vastes. Mais c'est aussi les questions d'inégalité sociale, parce que les cancers et ces maladies, elles touchent en majorité les intérimaires. Enfin, en fait, ça touche toujours les plus précaires. Les plus précaires sont les moins bien diagnostiqués, sont les moins bien soignés. C'est toujours les mêmes questions. Et en fait, cette question-là, elle regroupe tellement de questions autour. Évidemment, le modèle économique qui est défendu derrière, et donc bah, tous ces sujets-là d'inégalité sociale et de colonisation. Et voilà, c'est pour ça que quand je disais la lutte, elle est là, la convergence, elle est là. Pourquoi on est là aujourd'hui? Pourquoi on est sur beaucoup de luttes en même temps? Parce que je me suis dit, c'est central en fait. Cette question des pesticides, elle est révélatrice, c'est un outil de domination. C'est pas que de l'empoisonnement. C'est derrière un instrument de domination. Après, je peux partir dans plein de trucs, mais là, il y a Israël qui bombarde le Liban et la Syrie de glyphosate. Qu'est-ce que ça dit ? Il y a Trump qui bombarde la Colombie de glyphosate sous un autre prétexte. C'est tellement de sujets, les pesticides. Et après, on vient nous dire, c'est pas toxique, les pesticides. Non, mais on le sait que c'est toxique. Il y a une littérature scientifique qui est unanime. Le Conseil de l'Ordre des médecins, ce ne sont pas des dangereux gauchistes. Ce ne sont pas des éco-terroristes. Et les mecs, ils ont dit stop, là, il faut arrêter la loi du plomb. Ils ont dit qu'il n'y a plus de doute possible qu'au-delà du principe de précaution. Déjà, le principe de précaution, c'est censé exister. Mais tout le monde a oublié, mais c'est censé exister dans la Constitution. Mais non. Mais au-delà du principe de précaution, il n'y a plus de doute raisonnable. Ce n'est pas possible. L'INSERM, l'ANSES, le CNRS, tous les scientifiques, tous les chercheurs le savent. À côté, l'INRAE a fait des quantités de textes pour expliquer qu'une autre agriculture est possible et valable, qu'il y a une autre agriculture qui peut garantir les revenus des agriculteurs tout en produisant des produits de qualité. Tout est possible, c'est juste un choix. C'est un choix politique de maintenir un autre modèle pour enrichir des multinationales, on sait, qui produisent des pesticides, qui se développent sur les pesticides, qui après fabriquent les médicaments qui soignent les cancers qu'ils ont créés. Et donc tout ça au détriment de l'intérêt général, de la santé publique, des revenus des paysans, et de tout ce que ça tue derrière. Et on peut parler du climat. Ce sont des sujets passionnants. Parce que justement, ça touche à tellement de sujets et ça touche à l'intime. Et je crois que c'est ça aussi la magie de Cancer Colère. En fait, c'est qu'on parle de l'intime, on parle de la souffrance, on parle de la maladie. Quand on a un cancer, quand à un moment on nous dit « bah voilà, t'as un cancer du pancréas », tu peux rester dans un état de sidération, tu peux rester prostré. C'est facile, en plus t'as mal, t'es opéré, enfin t'es... Et à un moment on te dit, mais en fait, tout ça, c'est pas ta faute. Il y a un enjeu qui est énorme, qui est collectif, qui est plus grand que toi, et en fait ça aide, ça décentre aussi. Parce que quand on est malade en fait, et qu'on a mal 24 heures sur 24, quand on dort pas, parce que quand on est malade, on dort pas, quand on est en chimie, on dort pas, parce qu'on est pété de corticoïdes, on est crevé, mais on peut pas dormir. Et je sais pas si les gens ont conscience en fait de... On dit oui, c'est super, il y a des chimios, ça nous soigne. Alors déjà non, ça ne soigne pas, c'est pas vrai. On ne guérit pas des cancers, on survit. La chimio, oui, c'est dur, on vomit, c'est chiant. Mais on ne pense pas à tous les petits trucs à côté, comme notamment cette fatigue permanente, mais pour laquelle on ne peut pas dormir parce qu'on est bourré de corticoïdes. Après, il y a aussi l'angoisse, les nerfs et tout ça. Et le corps est complètement déréglé. On ne peut pas se concentrer sur des choses. C'est compliqué. Et on se dit, mais qu'est-ce qu'on fait de tout ça, en fait ? Qu'est-ce qu'on fait de tout ça ? Donc, à un moment, il y a ce sujet qui arrive et qu'on comprend ce qui se passe. C'est prenant, et ça fait du bien de sortir de soi. Quand même, ça fait des moments où on a moins mal. Non, c'est plus grand que nous, et puis que ça serve, quoi. Je suis maman d'une fille de 10 ans, et je veux pas qu'elle vive ce que j'ai vécu. Alors déjà, là, ce qu'elle vit, c'est dur, parce qu'avoir sa maman qui est malade, et la vie qu'on a depuis... C'est super difficile pour elle. Moi, j'ai peur tous les jours des séquelles que ça va lui laisser, psychologiques. Mais je me dis, ça pourrait être encore pire, parce que qu'est-ce qui me dit que demain, ça ne sera pas elle ? C'est une forme de MeToo aussi. Mais au début, je le cachais, parce que j'étais comme tout le monde à me dire, j'ai un cancer, c'est de ma faute. Je suis commerçante, il y a des gens qui attendaient des nouvelles de, voilà, je ferme, je tout ça. Et en fait, j'avais dit, j'ai des problèmes de santé. Je n'avais pas parlé de cancer, encore moins de cancer du pancréas. Une fois, j'ai commencé à évoquer sur le pancréas, on m'a dit, ah oui, cancer du pancréas, c'est qu'on boit trop d'alcool. Ah oui, bon, ouais, si, il y a des trucs comme ça qui se disent.
C'est ta faute.
Bien sûr. Voilà, ça renvoie aux responsabilités individuelles, tout ça. Et je me disais, c'est quand même bizarre, pas trop le profil du truc. Oui, j'ai mis longtemps à comprendre. Il a fallu que mon oncologue, en fait, me dise que c'était environnemental, que tout le monde le savait, que je cochais toutes les cases.
Mon oncologue, c'est un spécialiste du cancer. Hein.
C'est ça. Parce que mon oncologue, je lui avais demandé, j'ai dit, mais je comprends pas, là vous me dites que c'est pas génétique, c'est pas si, c'est pas ça, qu'est-ce que c'est ? Elle m'a dit, c'est environnemental, on le sait. Elle dit, vous cochez toutes les cases, dit, il y a une explosion, c'est une épidémie, le cancer, maintenant ça touche absolument tout le monde. Elle m'a dit, une explosion au niveau mondial dans les pays industrialisés des cancers digestifs et notamment du pancréas, et surtout en France. Alors en France, en plus, on a le cadmium. Les taux de cadmium, c'est pareil, on peut faire tout un passage sur le cadmium.
Je précise, quand tu dis tout le monde, on parle pudiquement de cancer pédiatrique, ça veut dire aussi les enfants.
Bien sûr.
Les enfants jusqu'aux anciens, en passant par toutes les tranches d'âge.
Quand on parle des enfants, c'est qu'il y a des enfants, effectivement, très jeunes qui sont touchés. Les chimios, en fait, il faut savoir que n'y a pas de chimio développée pour les enfants parce que ça coûterait trop cher. C'est toujours la même chose, la même logique commerciale. Donc en fait, les enfants, ils sont soignés avec les médicaments des adultes. En fait, on les soigne comme des milliers d'adultes, on leur met des petites doses de chimio d'adultes. Je ne sais pas si tu imagines ce que ça peut représenter quand c'est la violence de ce que c'est ce type de traitement. Les petits-enfants, ils se prennent dans la tronche ce que nous, on prend, mais avec des doses plus faibles, il n'y a pas de traitement adapté aux enfants. Donc ce sont des enfants qui, même si, pour ceux qui ont la chance de survivre à ces cancers, sont affectés dans leur corps à jamais parce que ça pète la croissance, physiquement, psychologiquement, enfin, ça détruit tout, quoi. Pour des raisons économiques, ouais, on s'occupe pas d'eux. Mais je voulais aussi parler des enfants qui sont affectés in utero. L'acétamipride, par exemple, c'est typiquement une molécule qu'on retrouve dans le liquide céphalo-rachidien dans les cas de contamination. En fait, c'est un truc qui se transmet par le fœtus. Et voilà, c'est une contamination in utero et qu'on retrouve dans le cerveau. T'imagines, des petits bébés en formation, ils ont de l'acétamipride dans le liquide céphalo-rachidien. Enfin, c'est complètement fou. Et je pensais à Laure, parce qu'on pense toujours à Laure quand on parle de ça, à Laure Marivin. Je suis très émue parce qu'en plus, là, il y a quelques jours, une semaine, c'était l'anniversaire, triste anniversaire de la mort de sa fille, Amy, qui est décédée à l'âge de 11 ans d'une leucémie. Laure, elle était fleuriste. Elle a été contaminée par les fleurs qu'elle manipulait, par les pesticides. Comment on peut, quand on est fleuriste et qu'on fait un métier en croyant faire quelque chose de beau, d'inoffensif, qu'on est contaminé par les pesticides qu'on transmet à son bébé in utero, qui après en meurt, vivre avec ça, porter ça, c'est absolument abominable. Et Laure, comme d'autres, hein, était avec moi le 11 février à l'Assemblée, quand Sandra Marceau, quand Annie Genevard ont parlé de nous, des victimes et des familles de victimes, comme d'hystériques, comme des faiseurs de peur. Hystérique m'a marqué parce qu'en plus je me disais on a le double truc en plus parce qu'on était des femmes. Mais il y avait plein d'autres adjectifs. Je me dis mais comment c'est possible ? Autant de mépris, autant de violence. Il n'y a pas de mots, il n'y a pas de mots. Ce qu'on s'est pris, il n'y a pas de mots. Tout qu'on sait qu'ils le savent, quoi. Qu'ils font semblant de ne pas savoir.
Mais peut-être que ces gens-là ne respirent pas le même air que nous, ne boivent pas la même eau que nous, ne vivent pas sur la même planète que nous, ne mangent pas les mêmes nourritures que nous.
Alors, ce qui est certain, c'est qu'ils mangent mieux. Je suis en train de penser à une chanson. Je vais citer Guillaume Meurice. Sur le disque des 130 ans de la CGT, une chanson, il dit « On laisse le cancer aux pouilleux ». En fait, c'est exactement ça. C'est qu'en fait, les gars de Monsanto, ils mangent bio. Et ils laissent le cancer aux pouilleux. Donc oui, effectivement, ils ne respirent pas tout à fait le même air. Ce qu'on dit, effectivement, oui, c'est une épidémie qui touche tout le monde, tous les âges. Et tout, mais ça touche pas toutes les classes de la société de la même manière, en effet. Il y a des gens qui ont des maisons qui sont plus à l'abri. Il y a des gens qui ont les moyens de manger mieux. Effectivement, ça touche pas tout le monde de la même manière.
T'aimes pas les vulves assassines avec Guillaume Meurice, choix de Caroline Proust de Cancer Colère.
T'as pas non plus les vélos, les steaks vegan et les tiers-lieux.
Mais quand même tu manges bio, tu laisses le cancer aux pouilleux.
Quand est-ce que tu te rends compte que ça va pas, que tu es malade en fait?
Oula, alors moi j'ai eu 2 ans d'errance médicale. Mais en fait j'ai senti un truc bizarre dans mon ventre, une sensation que j'avais du mal à expliquer. Je tirais la sonnette d'alarme auprès de mon médecin, une fois j'avais appelé le 15 et tout le monde me disait mais c'est rien. Enfin si mon médecin me cherchait quand même. À un moment il m'a dit oh, c'est peut-être le ver solitaire, c'est peut-être l'hélicobacter pylori, c'est peut-être plein de trucs. Bon. En fait je sentais un truc qui me rongeait le bide avec une sensation difficile à expliquer, je me dis il y a un truc qui me bouffe. J'ai déjà appelé le 15 et la première fois j'avais dit mais comme une sensation de faim, mais c'est pas ça. Et le mec m'a dit bon, jamais la faim n'a été le symptôme d'un problème grave, raccroché, encombré pas la ligne. Quoi. Et ça s'est développé, ça s'est empiré, problème de transit, constipation, plein de trucs. Et ça allait de pire en pire. Donc mon médecin, à un moment, m'a fait voir un gastrologue. En fait, le premier jour, gastro, moi, je suis arrivée en larmes. Ça commençait à faire pas mal de temps que je commençais vraiment à angoisser, ça montait, quoi. Et je me disais, mais qu'est-ce qui m'arrive? Et ce gastro me dit, j'ai peut-être pleuré pendant une demi-heure avant qu'il m'ausculte. Il me dit, pas de souci. Il me dit, écoutez, moi, je comprends bien. Vous êtes angoissé, vous êtes hypochondriaque. Donc, je le prends comme quelque chose d'important. On va vérifier que tout va bien. Mais je suis sûre que c'est le côlon irritable. En fait, le côlon irritable, c'est un truc qu'ont inventé les médecins pour dire qu'en fait, c'est rien, c'est psychologique. Il me fait une fibro avec une biopsie et tout ça. Il me dit, oh, il n'y a rien, c'est ce que je pensais. Mais puisque vous insistez, on va faire une coloscopie. Quelques mois plus tard, on fait une coloscopie. Donc moi, en attendant, je continue à avoir mal, à boire bien et à imaginer plein de trucs. Et la coloscopie, il me dit, alors pas de lésion, ça va, mais j'ai pas pu aller au bout parce que vous avez un dolichocolon. Un dolichocolon, ce n'est pas un dinosaure, contrairement à... Non, mais c'est vrai, ça y ressemble. En fait, bon, c'est un colon trop long. Donc dans ces cas-là, non, ils vont pas chercher un tuyau plus long. En fait, ils demandent de faire une entéro-IRM. Et l'entéro IRM, on dit « Ah, mais tout va bien sur le pancréas, par contre, vous avez une vésicule calculeuse. » Mon gastro me dit « Tout va bien, il n'y a pas de souci. » Entre-temps, j'avais eu des crises. J'étais allée aux urgences plusieurs fois. On m'avait fait un scanner dans le compte-rendu hypertrophie du pancréas. Entre-temps, j'avais eu des problèmes aussi de prise de sang. On m'avait détecté un taux de lipase important. Taux de lipase, moi, j'avais vu sur Internet que c'était un marqueur du pancréas. Donc, j'étais en panique totale à ce moment-là. Voilà, mon médecin avait commencé à parler de pancréatite possible et tout. J'avais des douleurs en barre. Et tout. Et bon, mon gastrologue, ouais, c'est rien, vous inquiétez pas. C'est le stress, madame. Et il m'a donné un antidépresseur. Oui. Et quelques temps après, je continue à avoir des douleurs violentes. J'ai carrément fait une pancréatite. Ah, bah vous inquiétez pas, on a vu votre entéro-IRM il y a quelques mois. C'est à cause de votre vésicule calculeuse, c'est une pancréatite ichthyasique, donc ça vient de la vésicule, on va vous enlever la vésicule et puis tout ira bien. Et en fait, moi j'avais parlé de l'histoire du pancréas au gastrologue qui m'a dit, il m'avait envoyé chier. On sort de là, il m'avait dit, vous avez un rendez-vous avec un chirurgien viscéral dans plusieurs mois. Et en fait, moi j'avais toujours mal et je me dis, non, il y a un truc qui ne va pas, quoi. Et ça s'est fini aux urgences le 7 décembre 2024. Et heureusement que je suis allée aux urgences ce jour-là. Aux urgences du CHU de Poitiers, j'avais changé d'hôpital. Je suis allée directement au CHU et là, on m'a dit, il y a un problème, madame. Lundi matin, à première heure, vous appelez en chirurgie viscérale, vous demandez un rendez-vous en urgence, vous dites que vous êtes passée là. J'ai vu une chirurgie viscérale 2 jours après qui m'a dit, les gens qui vous ont fait le diagnostic n'ont jamais regardé votre IRM. Ce qu'elle m'expliquait, c'est que quand j'ai fait ma pancréatite, il y a 2 médecins qui ont signé un compte-rendu, qui m'ont renvoyé chez moi et qui n'ont pas regardé les images de mon IRM. Et qu'en plus, le compte-rendu de cette fameuse IRM était erroné. En gros, j'ai eu 3 grosses erreurs médicales. Quoi. Mais qui auraient pu être évitées si simplement ils avaient regardé les images. Et en fait, c'est à partir de là que j'ai enchaîné les rendez-vous de plus en plus rapides parce que tout d'un coup, ils se sont dit, il y a un truc qui ne va pas. Quoi. Et qu'après, ça s'est orienté sur le pancréas. Et qu'en fait, on avait raison, que ça faisait 1 an qu'on le disait avec mon médecin qu'il y avait un truc sur le pancréas et qu'on m'avait laissé à me dire, c'est le stress, madame, à me filer des antidépresseurs. Quand on a mis le doigt sur le truc et qu'on me dit c'est un cancer du pancréas, elle en dit on est peut-être dans les temps. Ben, j'espère, en grand heureux en fait. Ça fait 2 ans que je suis dans le désert, ça fait 1 an qu'on m'a foutu sous antidépresseur. Et là on me dit vous inquiétez pas, on est peut-être dans les temps. Est-ce qu'ils ont eu peur d'un procès, peur pour leur conscience? Mais là il y a eu le plan Orsec qui a été déclenché. Tout d'un coup c'était plus moi qui galérais à avoir un rendez-vous, c'était tout le monde qui m'appelait en urgence. J'avais les chefs de tous les services, c'était super. Chef de gastro, chef de chirurgie viscérale, chef de... Je savais même pas que ça existait, la radio digestive. Tous les rendez-vous en urgence. J'ai été opérée le 7 mars, 3 mois, jour pour jour, après que je sois allée aux urgences. Alors que ça faisait plus de 2 ans que je hurlais dans le désert. Et là, en 3 mois, j'étais sur le billard. Et donc ils m'ont enlevé la tumeur qui était sur le corps du pancréas, et plus la queue du pancréas et la rate qui allait très bien, mais par mesure de précaution. Puisqu'ils ont dit que j'étais jeune et en bonne santé, juste un cancer du pancréas, et à côté de ça, j'étais... qui voulaient mettre toutes les chances de mon côté. Voilà, pourquoi ils m'ont tout enlevé et qu'ils ont coupé très large. Et la chimio derrière, pour être sûr de mettre toutes les chances de mon côté, parce qu'a priori, je n'avais pas de métastase, et pour l'instant, je n'en ai pas, et je touche du bois, voilà quoi. Si je ne m'étais pas battue, et si je n'avais pas eu mon médecin traitant, qui m'a écouté depuis le début, ouais, bah, je ne serais plus là, hein, c'est évident. C'est la bataille permanente. Pour arriver au diagnostic, pour arriver à ça, enfin bon, après, je te passe les violences pendant mon opération. On m'a enlevé la morphine au bout de 2 jours, la pompe à morphine, parce que comme j'appuyais sur le bouton, ils ont dit « Ah ben c'est une tox, du coup on va lui enlever la morphine » et ils m'ont filé du Doliprane. Donc en fait ils m'ont enlevé 2 organes et ils m'ont filé du Doliprane. Bon, ça a été un peu compliqué, hein. J'ai passé 10 jours en enfer total, avec des douleurs qui ne sont pas imaginables. Ils m'ont envoyé d'abord un psy, après un psy d'addicto, qui m'a dit « Mais moi je peux rien faire pour vous en fait ». C'est que même si j'avais été tox, en fait, on ne fait pas ça. Et en plus, ça, c'est même pas la question. Ils ne voulaient pas prendre mon médecin, parce que mon médecin traitant avait proposé. Il a dit, mais qui m'appelle ? Moi, je vais leur dire que vous supportez hyper bien les antalgiques et que c'est pas possible, en fait, ce qu'ils sont en train de faire. Quoi. On ne donne pas du Doliprane ni du Spasfon à quelqu'un qui vient d'enlever 2 organes. Quoi. Enfin, bon, ça a été l'enfer. Donc, je sors de l'hôpital dans un état lamentable. J'apprends que donc, pas mal de mes voisins ont la même chose que moi, ce qui est quand même assez dingue, parce que j'habite dans un petit hameau... Et qu'à un moment, je me suis dit, statistiquement, ça fait beaucoup quand même. Et peu de temps après, donc le 9 avril, je rencontre donc mon oncologue qui me dit que l'origine est environnementale et que je coche toutes les cases et que c'est évident. Donc ça fait beaucoup, beaucoup en fait qui s'était accumulé quand même. Évidemment que dans la colère, il y a la dimension politique dont on parlait tout à l'heure. Après, c'est un truc assez global parce qu'on peut parler aussi du système de soins qui est défaillant, qui est patriarcal, qui est violent. Enfin, c'est un ensemble de choses, en fait, qui fait qu'à un moment, on se dit bah, « soit je me laisse crever, mais c'est pas trop mon envie, en fait, ni ma personnalité. Soit bah, là, je pars au combat parce qu'il n'y a que ça à faire, en fait. » Bah là, ça tombe bien parce que pour la première fois de ma vie, je suis à la mode. Parce que paf, il m'arrive ça. Il y a la loi du plomb, il y a le cancer colère, il y a le cadmium. Je me dis, bon, bah, c'est là que ça se passe, faut y aller quoi. Et là, ça se voit aujourd'hui, ce week-end. C'est que là, oui, on se retrouve tous. Ouais, on est au cœur des luttes qui ont du sens et qu'il faut porter en ce moment. Il faut quand même vraiment avoir en tête que quand on vit ce que je vis, en fait, on a un niveau de fatigue qui est difficile à expliquer. Il y a des brouillards mentaux qui sont difficiles à expliquer. J'ai un peu de mal à avoir de la distance, à voir, j'entends pas forcément ce que je dis et tout ça, parce qu'il y a vraiment un niveau de fatigue et une part de brouillard mental que les gens perçoivent pas. Et donc on fait notre mieux pour être là, mais en vrai, physiquement, c'est vraiment une gageure. C'est difficile et de parler et d'écouter ce que je dis, parce que c'est vraiment beaucoup d'énergie. Parce que les gens se rendent pas compte forcément. Par exemple, moi là, j'ai de la morphine dans mon corps, que j'ai l'habitude de faire avec. J'ai pris des médicaments, d'autres que la morphine, pour tenir ce week-end. Et je tiens, pour revenir à ce que je disais, sur cette histoire de MeToo, voilà, c'était ça, parce que justement, on parlait du fait que j'ose espérer que ça n'est pas en train d'arriver et que ça n'est pas en train d'arriver aux autres, mais que pourquoi on est là, qu'au début, je n'osais pas dire que j'avais un cancer et encore moins du pancréas, et qu'en fait, c'est grâce à Cancer Colère que j'ai compris que non seulement je pouvais, mais que je devais le dire. J'ai compris qu'en fait, on nous intimait l'ordre de le cacher. Parce que invisibiliser la maladie, c'est invisibiliser les problématiques qu'il y a autour et que c'est très pratique. Notre rôle, justement, maintenant, c'est de dire, bah non, on va pas rentrer dans ce truc-là. On va le dire, bah oui, nous sommes malades, nous n'avons pas honte d'être malades, nous ne sommes pas responsables de nos maladies. Et à partir du moment où moi, j'ai compris ça, que je pouvais le dire, je me suis aperçue que tout le monde venait me voir. Et en fait, c'était ça, cancer colère. Fleur a commencé à essaimer ses graines. Et maintenant, quand on vient et qu'on a nos badges cancer colère, quand on vient à des endroits comme là ou n'importe où, tout le monde vient nous voir en nous disant « Moi aussi, je suis malade. Ma fille est malade. Mon frère est malade. » Et tous ces gens qui n'osaient pas le dire et qui commencent enfin à le dire. Et il y a un MeToo cancer et c'est important. Et il faut que ça continue parce que invisibiliser, c'est trop facile. Et quand ils comprendront qu'on ne se laissera pas faire, si nous, dans l'état où on est, dont je parlais tout à l'heure, physique, là, on en est au point de colère et de ras-le-bol, de ce mépris et de cette violence, qu'on est capable de se faire mal à monter sur des manifs, à monter sur des actions qui nous demandent beaucoup physiquement. Il faut qu'ils comprennent qu'en fait, on n'a pas de limite. On a une détermination qu'ils ont complètement sous-estimée. ils ne comprennent pas que ce n'est pas possible d'être plus déterminé qu'on ne l'est.
On connaît tous quelqu'un qui est malade.
Oui, ben oui. Il y a aussi plein de gens qui ne le disent pas, quoi.
Et puis, ce n'est pas que les cancers. Les scléroses en plaques, il y en a de plus en plus. Les problèmes d'infertilité, c'est aussi concerné par les violences chimiques. Enfin, on le sait aussi. Et c'est vrai que tout le monde ne fait pas le lien. On est là pour ça, pour le dire. Mais on ne dit pas que 100% des maladies sont liées aux violences chimiques, bien entendu. Ce qu'on dit, c'est que... Alors, ce n'est pas nous qui le disons. Hein, c'est le Centre international de recherche contre le cancer qui dit que c'est entre 40 et 50% juste des cancers qui sont d'origine environnementale. Il y a d'autres maladies. Ça, c'est ça en trop et que c'est évitable. C'est bête, mais j'ai envie de faire une petite parenthèse sur la sécu, mais pourquoi il y a un gros trou l'espèce d'endettement artificiel avec le Covid, tout ça. Mais c'est quand même intéressant par rapport au cancer parce que ça coûte une fortune. Moi, on m'a dit juste mon cancer, que ça coûte à peu près 100 000 balles. Parce qu'il faut compter les traitements, il faut compter les trajets, il faut compter les imageries, il faut compter tout ça. Je ne suis même pas sûre que quand on compte ça, on compte tous les soucis à côté. Parce qu'en fait, quand on a un cancer, c'est pas juste... Moi, on ne s'occupe pas que de mon pancréas et de mon cancer, parce que ça dérègle, ça donne des soucis gynéco, ça dérègle sur plein de trucs, d'ostéoporose, machin. Enfin, c'est des trucs en cascade. Et ça, je suis même pas sûre que ce soit compté dans les trucs de la sécu. Il faut juste voir la bascule de l'argent, en fait. L'argent qu'on donne à Bayer pour payer ces traitements-là. Est-ce qu'on veut qu'il y ait moins de malades et sauver la sécu ? C'est facile. En fait, si on arrête de rendre les gens malades, eh bien, on sauve la sécu. Et c'est hyper fastoche, en fait. Il y a un moment, il y a des choix. Le choix, il a été fait de faire différemment, de prendre du pognon d'un côté pour rendre les gens malades et de redonner du pognon aux mêmes pour qu'ils soignent ces mêmes malades en les accusant de l'autre côté, en les incriminant de l'autre côté, en les culpabilisant. Parce qu'en plus, on leur dit, et c'est ce qu'on nous dit quand même ces derniers temps, attention, attention au trou de la sécu, c'est de votre faute, il va falloir payer plus, on va commencer à dérembourser et à faire chier les affections longue durée. Et après, on nous dit, mais pourquoi vous êtes en colère ? Qu'on nous reproche, en cercle l'air, parfois, le terme de colère. Je trouve ça assez surprenant, en fait, qu'on nous reproche ça. Si dans cancer, colère, on devait changer un terme, ce serait cancer, parce que ça ne touche pas que les cancers. Mais colère, je vois difficilement comment on pourrait le modifier. Alors après, nous, on en fait une colère constructive. On le voit dans les actions qu'on mène, dans la manière qu'on a de porter notre message. C'est une colère qu'on essaye de rendre la plus constructive possible, et même joyeuse. On chante même à cancer, colère. On a entendu le 11 février, et là, on va rechanter samedi prochain. Voilà, on rend ça constructif et joyeux. Mais la colère, elle est là parce que c'est pas possible de dire qu'on tue des gens, qu'on rend des enfants malades pour pouvoir perpétrer un modèle économique, pour pouvoir faire plaisir à des multinationales. Parce que c'est quand même ça. Enfin, sacrifier des vies, des enfants, pour maintenir un système qui s'autodétruit, qui détruit pas que la planète, qui est en train de s'autodétruire. C'est complètement délirant. Et on nous fait passer pour des fous.
Oui, mais tu sais, la colère, c'est mal, faut se mettre des petits pouces bleus sur Facebook, faut être de bonne humeur, faut faire du yoga.
On me l'a déjà conseillé, le yoga. Je conseille à personne de me conseiller de faire du yoga. Les gens qui nous disent de faire du yoga...
C'est ce qu'ils veulent, les gens, que tu portes un badge cancer bonne humeur ?
Ben oui, c'est tellement cool, c'est tellement cool.
Cancer sourire ?
Ouais. Pourtant, moi je souris et on est là, il n'y a pas de problème. On est en colère, ouais, mais pourquoi on est en colère et pourquoi on est là ? Parce qu'on veut de la vie, parce qu'on est encore vivant et qu'on veut le rester vivant et parce qu'on va pour la vie et qu'on a une putain d'envie de vivre, quoi. C'est pour ça qu'on est là et que, bah ouais, on a envie de sourire. On veut être vivant pour sourire et pour ce qui est beau. Et c'est la colère qui nous amène à nous battre pour ça.
Grâce au glyphosate, on a tous une grosse prostate. Grâce aux fongicides, on n'a plus de thyroïde. Haute valeur environnementale et tumeur colorectale. Merci Bayer Monsanto. On a tous droit à la chimio, grâce au chlordéco, on se fait changer les poumons. Merci Bayer
manteau. On est malade dès le berceau. C'est dans la terre, c'est dans l'eau. Bayer, on tape tous dans la peau. Tu nous débarrasses des oiseaux qui font caca sur nos chapeaux. C'est dans la terre et c'est dans l'eau. Bayer, on tape tous dans la peau. Tu nous débarrasses des abeilles qui font peur à ma tante Mireille. Ah, 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 la queue neuneu. Ah, 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 la queue neuneu. Tout, tout, tous les cancéreux traînent la savate à la queue neuneu.
Le glyphosate par nos confitures, on vous l'a déjà joué et on vous le rejoue, extrait du disque L'eau qui mord, avant de retrouver Caroline Proust du collectif Cancer Colère, et on revient sur ce délirant déni de science. Vous avez entendu parler des climato-sceptiques ? Eh bien, il y a aussi celles et ceux qui font semblant de douter que les poisons mortels fabriqués par Bayer Monsanto et imposés par l'agro-industrie ont une responsabilité écrasante dans l'actuelle épidémie de cancer.
Tous les cancéreux traînent la savate à la queue.
J'ai envie de parler de Marc Billot, directeur émérite en cancérologie au CNRS, qui trouvait ce terme et cette analyse de cancer backlash, c'était en janvier. Il a dit, mais en fait, là, on a un moment où effectivement, il y a un discours qui est en train de se développer pour dire que l'épidémie de cancer et de maladie donc vient des comportements individuels et qui est en train petit à petit de dénigrer la science. Et donc Marc Billot avec un confrère à lui ont théorisé de manière très pertinente ce cancer backlash. Il parle aussi beaucoup des inégalités sociales et de tout ce qui tourne du coup autour de tout ça. Et donc qu'est-ce qui se passe maintenant? C'est qu'il y a des gars qui écrivent dans, en gros dans l'Express et le Point, hein, ça c'est toujours... pour aller expliquer que Marc Billot raconte n'importe quoi. Mais c'est pas que Marc Billot. Après, c'est beaucoup d'autres chercheurs, scientifiques, tout le monde. Et donc, soit ils s'en prennent aux scientifiques, nommément les uns après les autres, soit avec Omnibus, ils se sont dit, bah tiens, on va faire mieux. On va partir du principe qu'on emmerde la science. On fait comme si elle n'existait pas.
Vous vous foutez de la gueule de Trump, en fait, on fait exactement la même chose ici.
De toute façon, Omnibus, c'est ça. Hein. Omnibus, c'est la Trumpisation de l'appareil législatif européen.
Maintenant, c'est ce package de lois de protection de l'environnement, etc., qu'on fait sauter par pas entier.
Ça, mais, ouais, c'est ça, en fait. Omnibus, c'est un outil législatif européen qui permet d'avoir des leviers sur plusieurs sujets en même temps. Omnibus, c'est comme un train qui emmène tout sur son passage. Quand ils veulent changer... Un petit truc qui pourrait concerner plusieurs lois, de pas avoir à sortir toutes les lois et d'être obligé de discuter, de se concerter, de voter des trucs un peu long et chiant sur chaque loi. Donc ils se disent, bah tiens, ça va concerner plein de trucs. Et donc là, le sujet, c'est de simplifier, donc avec toutes les guillemets, simplifier, ça veut dire quoi? Ça veut dire déréguler. Omnibus, il y a en gros 10 gros paquets de lois. Par exemple, dans le 1, on va retrouver la fin de la protection des droits humains. C'est juste ça, hein. On est sur des petits détails comme ça. Parce que le droit européen, jusque-là, disait aux entreprises qu'elles étaient responsables du respect des droits humains, entre autres, hein. Il n'y a pas que. Aussi de l'impact environnemental et de plein d'autres choses. Mais le droit européen disait, voilà, les multinationales... sont responsables pour elles et pour toute la chaîne de production de leur impact environnemental et du respect des droits humains et d'un certain nombre de règles. Et là, Omnibus, il dit « Ouais, mais en fait, non, finalement, ils vont être responsables que d'eux-mêmes, pas de la chaîne de production, ils rabotent de partout, et donc ça ne concerne plus que les quelques grosses multinationales et en rabotant un peu de tous les côtés, quoi. Donc, en gros, c'est de dire « On s'en fout un peu des droits humains, on n'est plus responsable de ça ». Et de l'impact environnemental. Donc ça veut dire qu'en fait, des entreprises européennes, là, elles peuvent sous-traiter aux Ouïghours, ça pose aucun problème. Ça devient légal avec Omnibus. Je ne sais plus si c'est 7 ou 8 sur les cosmétiques. Cosmétiques, c'est aussi pas mal en termes de produits chimiques et tout ça. Et donc le 10, c'est sur la sécurité alimentaire. Donc ça touche toute la dérégulation sur les pesticides, tout ça. Les pesticides qui vont être autorisés, les molécules qui sont autorisées, ça va être illimité. C'est-à-dire qu'on ne demande plus à la science de confirmer qu'il n'y a plus de toxicité. C'est dire, clairement, on s'en fout de la science. Là, en fait, ce qu'il faut, c'est introduire un maximum de molécules. Et puis, on enlève les garde-fous et clairement, enfin, il s'écrit noir sur blanc, on s'en fout de la science, quoi.
Et on fait sauter le principe de précaution.
Bien sûr. D'ailleurs, la FNSEA, ce week-end, est en train de bosser là-dessus, à Caen.
Supprimer le principe de précaution, ouais. C'est-à-dire qu'on peut utiliser ouais. N'importe quelle chimie, etc., sans études préalables sur les impacts éventuels que ça va...
En même temps, c'est pas comme si c'était super respecté en ce moment, mais c'est vrai que théoriquement, il existe toujours le principe de précaution en France et en Europe. Il est pas mal bafoué, mais là, c'est vrai que la FNSEA est en train de bosser pour que ce soit objectivement, officiellement sauté. Enfin, il y a la LUA qui arrive, il y a tous les outils législatifs de la FNSEA qui sont en train de se mettre en place avec ça. Et donc là, on sait que ce week-end à Caen, ils sont en train de bosser là-dessus, quoi. Faire sauter le principe de précaution, oui. Bon, la FNSEA, c'est pas complètement fou de se dire que bah ils bossent pour eux-mêmes, donc c'est normal. Enfin, que Rousseau défend Avril, bon, il y a un côté logique. Mais c'est vrai que nous, ce qui nous attriste, et on en parlait ce matin du syndrome de Stockholm.
Le syndrome de Stockholm, c'est quand des gens pris en otage, en fait, prennent le parti de leurs ravisseurs voilà. Et par extrapolation. Aujourd'hui, nombre d'agriculteurs qui utilisent ces produits chimiques, qui vivent dedans, sont les premiers à en mourir, mais défendent malgré tout ce système qui les fait crever.
Effectivement, il y a l'aspect sanitaire, c'est évident, enfin, qu'ils sont le plus proches et qu'ils sont ultra nombreux à être contaminés, et souvent, ils s'en rendent compte trop tard. Donc oui, ce sont les premiers touchés d'un point de vue sanitaire, mais même d'un point de vue économique. La paysannerie crève de ça, crève de l'agriculture intensive, d'expansion de la machinisation, de tout ça. Les seuls à qui ça profite, ce sont les industriels. Ce ne sont pas les paysans et les agriculteurs.
Sauf les quelques gros qui restent, quoi.
Oui, mais les gros, mais du coup, ce ne sont pas les paysans.
Mais sont-ils encore paysans?
Non, mais c'est ça, ce ne sont pas les paysans. D'où le syndrome de Stockholm, à deux titres, donc à la fois économique et sanitaire. Les gars sont emprisonnés dans un truc... Et ce sont les premières victimes. Nous, ça nous paraît toujours important de rappeler que Cancer Colère se bat avec les paysans et que pour les paysans qui ne sont pas forcément tout de suite conscients qu'en fait, on se bat aussi pour eux. Mais après, j'ai l'impression que c'est quand même un peu toute la vie militante depuis que je suis née où souvent on se bat pour des gens qui ne comprennent pas qu'on se bat pour eux. C'est ce qu'on se bat jamais pour nous et qu'on se bat pour le collectif et que le collectif, c'est eux aussi. Et qu'on espère qu'à un moment, ils vont comprendre que c'est pour eux aussi, quoi. Qu'on n'est pas contre.
En plus, la FNSEA, dans ses objectifs, annonce que son objectif, c'est de limiter au maximum le nombre d'exploitants agricoles. On parle plus de paysans.
Mmh, bien sûr.
Pour qu'il n'y ait plus en France que quelques grosses fermes-usines gérées par des robots et de la pseudo-intelligence artificielle. Enfin, bon, voilà. On voit des petits qui se battent pour défendre ce modèle qui les fait crever.
Ce qui est dingue, c'est de se dire qu'ils sont quand même assez doués d'avoir réussi à faire croire à des gens, enfin, je pense évidemment à la coordination rurale.
Pseudo-syndicat agricole proche du Front National.
Voilà. Certains agriculteurs qui ont rejoint la coordination rurale parce qu'ils sont manipulés et perdus et parce que les gars, ils sont tout seuls dans une situation de détresse comme la plupart des paysans et qu'on leur fait croire que c'est de mettre des pesticides. Alors, j'arrive pas à comprendre quand même comment on peut croire qu'en empoisonnant la terre, on va mieux travailler. Mais parce qu'on leur fait croire ça, moi, je trouve ça triste qu'ils comprennent pas qu'en fait, c'est pour eux qu'on se bat, quoi.
Oui, puis qui sont les premières victimes, de ces maladies.
Ouais.
En plus, le pire, c'est qu'ils le savent. Dans les familles d'agri, etc., il y a des maladies. C'est les premiers touchés par les saloperies qu'ils emploient. Donc, ils le savent. C'est incroyable.
Non, mais complètement. Non, mais ça, parce que bon, évidemment qu'il y a une partie de la CR qui sait très bien ce qu'elle fait. Mais il y a certains agriculteurs, on a envie de leur dire, mais hé, mec, pose-toi, on va discuter. Et en fait, regarde vraiment où est ton intérêt, quoi. Ton intérêt, il n'est pas là.
Là où tu vis, tu disais qu'il y a d'autres cancers.
Bien sûr.
De gens, voilà. Et tu fais le lien entre les pratiques agricoles qu'il y a autour de chez toi et vos maladies.
Je ne peux pas le faire objectivement. Je suis dans une zone rurale très agricole. Donc hier, avec Clarisse, on parlait d'intuition. Mais moi, je ne veux pas incriminer des gens personnellement, en fait. Et je ne veux surtout pas dire des conneries. Parce qu'en fait, à Cancer Colère, on est un peu bête. Quand on cite des chiffres, on cite des chiffres sourcés et quand on dit des choses, on dit que des choses vérifiées. Donc là, jamais, je ne vais aller dire mon cancer, il vient de telle parcelle. En fait, j'en sais rien. Ce que j'ai dit, c'est le modèle. Et en plus, je ne veux pas incriminer, comme je disais, personnellement, le paysan d'à côté qui lui-même, peut-être, est enfermé dans un système qu'il ne maîtrise pas parce qu'on les fait s'endetter, les gars. On les fait acheter des machines. Je veux dire, à un moment, ils se retrouvent avec des dettes qu'ils n'auraient pas demandées. C'est tout un système. Et donc, nous, ce qu'on dénonce, c'est le système. Et moi, je ne vais pas aller voir mon voisin et lui dire « Mon cancer est de ta faute. » Je ne vois pas l'intérêt. Après, oui, je constate qu'autour de chez moi, ouais, je ne suis pas la seule. Après, est-ce que c'est vraiment que chez moi? Je crois pas.
Quand les gens me disent est-ce qu'il faut déménager, ben non, parce qu'en fait tu auras le même problème ailleurs, c'est pas vraiment la question. La question, c'est le modèle qu'il faut changer. Et puis oui, si, évidemment, si à titre individuel, mon, certains voisins arrêtaient de mettre du glyphosate partout, oui, je préférerais. Parce qu'on voit ça hein, aussi, des particuliers. J'ai eu ça devant chez moi, de l'herbe toute jaune pendant longtemps. Et on hurlait auprès du voisin. Et il me disait, ah, je fais ce que je veux, c'est chez moi. Bah ouais, t'as raison, c'est à 50 cm de ma porte. J'ai eu ça pendant des années. Je peux pas m'empêcher de me demander si à un moment, cette herbe jaune qui était devant chez moi, parce que peut-être glyphosate, il y a une incidence ou pas. J'en sais rien, je peux pas pointer. Et puis, les cancers, les maladies, ces maladies-là, c'est aussi pareil. Ce qu'on essaie d'invisibiliser, c'est l'effet cocktail. L'effet cocktail, c'est l'accumulation et c'est l'interaction des différentes molécules et de ce qu'on se prend au fil des ans dans la tête et par différents biais. Ça, ça leur fait plaisir parce qu'en fait, quand il y a des études, et il n'y en a pas tout le temps sur certaines molécules, déjà, la plupart du temps, c'est souvent les labos des producteurs des molécules.
C'est comme les gendarmes qui font des enquêtes sur les gendarmes.
Oui, mais c'est ça. Mais ils auraient tort de se priver, en fait, tant qu'on les laisse faire, les gars. On leur dit, faites vos études et puis on va les prendre comme ça. Alors, donc, ils font leurs propres études. Ils disent, oh, ben, ça va bien, dis donc. Ce qu'ils font aussi, c'est qu'ils prennent une molécule isolée, mais jamais il y a de prise en compte de l'interaction avec les autres molécules et donc l'effet cocktail et tout ça. Et en fait, ça fausse absolument tout, parce que les métabolites, ça ne fonctionne pas comme ça, en fait. Et donc, c'est volontairement faussé. Après, il y a aussi plein de dossiers qui sont montés n'importe comment, exprès, pour retarder les analyses. Enfin, quand on rentre dans l'étude de ça, enfin, on peut demander à la génération future, à Greenpeace et tout ça, enfin, quand on étudie le fonctionnement de ces dossiers-là, mais c'est hallucinant, enfin, c'est complètement torpillé dès le départ, on le sait, enfin... Mais pourquoi vous êtes en colère? Donc l'effet cocktail qui est prépondérant parce que chimiquement c'est hyper important et qui est volontairement mis de côté dans les analyses et dans la transmission des infos et qu'en fait on parlait du cancer backlash et de tout ce discours qui va à l'encontre de la science en ce moment qui est un discours négationniste, enfin, c'est complètement dingue, commence à se faire entendre. Ah oui, mais l'effet cocktail, ça n'existe pas. Et en fait, les gars commencent à pointer dès qu'il y a un truc qui les emmerde, quoi, à le pointer pour dire que ça n'existe pas. On est sur du négationnisme de la science, c'est complètement fou. Oui, on arrive à un moment où, dans le Figaro, il y a deux semaines, on dit les historiens racontent n'importe quoi parce qu'ils ont le malheur de parler de la montée des fascismes dans les années 30. Il n'y a plus de science, il n'y a plus de vérité. Ouais, on a basculé dans un monde de post-vérité trumpiste. C'est ce qui est en train de se passer, quoi, on en est là.
Oui, il suffit de dire le réel n'existe pas.
Ouais.
Et à partir de là, on peut tout faire.
Moi, en fait, j'ai fait des études de philo. En ce moment, je pense à un cours que j'avais eu en Kenya. Et sur le coup, ça m'avait paru super théorique. Et j'aurais jamais pensé le vivre. On parlait d'Anna Arendt.
Que cette philosophe qui a assisté au procès Eichmann, voilà. Ce qui est théorisé sur la banalité du mal.
Précisément. On parlait de Kant aussi. Et du relativisme. Moi, j'avais un prof de philo qui s'intéressait beaucoup à la philosophie politique et à la Shoah. Parce qu'à l'époque, en fait, on étudiait la Shoah et on ne se faisait pas traiter d'antisémite parce qu'on, enfin, c'était détruire un monde un peu bizarre. On faisait de l'histoire. Et en fait, à l'époque, donc, on parlait de relativisme. Et je me souviens, ce prof qui nous avait dit le danger du relativisme, bah, c'est qu'à un moment, si tout se vaut, rien ne se vaut, et qu'on tombe bah, dans le tout est possible, et pourquoi pas le nazisme, et pourquoi pas tout ça, enfin bon, bref. Et en fait, sur le coup, ça, je m'étais dit, intellectuellement, il a raison, mais ça me paraissait complètement lunaire. Je me disais, comment il fait pour en arriver là? Pour nous dire ça, là, en 2000, on était en 2000, un truc comme ça. Je me disais, c'est hyper bien d'étudier Kant et Anna Arendt en regardant la Shoah, tout ça, en 2000, mais je me disais, comment on peut se projeter dans cette possibilité? Ça me paraissait purement théorique. Là, on est en 2026... Je veux dire, c'est depuis le Covid que j'entends de plus en plus de gens qui me disent bah, « et pourquoi pas ? Et pourquoi la Terre ne serait pas plate ? Et pourquoi pas ?» C'est là.
Est-ce que le Covid ne serait pas un complot médiatique qui se soigne à l'argile verte ?
Mais
parce
oui.
Qu'il y a des sadiques savants chinois qui torturent des pangolins dans des bunkers secrets.
On a voulu me refiler de l'argile aussi pour mon cancer. Non, mais j'en veux plus de l'argile. Ça soigne aussi les cancers du pancréas, l'argile verte. Hein.
Ça fait flipper dans cette grande vague anti-vax.
Ça avait commencé là, et en fait, là, ça a pris des proportions. Et en fait, ce qui me fait le plus peur, c'est que j'ai entendu des gens parfaitement rationnels, qui ont la tête sur les épaules, enfin, qui l'avaient, des enseignants plutôt solides, quoi. Et qui, de plus en plus, me disent « Ah, mais je suis plus sûr de rien, après tout, pourquoi pas ?» Et en fait, moi, je dis pas que je suis sûre de tout, loin s'en faut. Hein. Je suis tout en train de me remettre en question, de revoir tout. Enfin, j'adore douter et j'avance toujours en doutant. En revanche, je crois pas qu'on puisse
remettre en cause certains principes fondamentaux qui ne me paraissent pas complètement délirants. Quelques principes kantiens, en fait. Je reviens à Kant. Ça me paraît fou d'en être là. Est-ce qu'on peut encore ou pas dire que le bien, c'est bien et que le mal, c'est mal? En fait, on en est là, quoi. Parce que là, on n'arrive même plus à dire que la guerre, c'est mal, quand même. On en est quand même à dire que bombarder des enfants, que ce soit avec des armes, des bombes ou des glyphosates, tout ça, qu'on dit que c'est mal, on est antisémite. Et puis, on se retrouve avec des problèmes. On n'arrive plus à dire le bien, c'est bien, le mal, c'est mal.
C'est Orwell, qui était un flic, nous avait annoncé, hein, la vérité c'est le mensonge, la guerre c'est la paix.
C'est ça.
C'était de la science-fiction quand on a lu ça gamin, mais puis ce truc là de toutes les vérités se valent, ton opinion vaut bien la mienne. C'est assez condescendant, mais je mouche les gens en disant écoute toi t'as des opinions, moi j'ai des analyses.
Ah. Il nous est arrivé, Cancer Colère, d'avoir un souci avec ça parce que. Donc ouais, je vais pas balancer, mais il y a des médias qui nous disent vous venez et puis alors il y aura le pour et le contre. Et nous là on dit non. Nous, on est pour la science et donc ça veut dire qu'on donne 50% de parole aux gens qui disent ce qui se passe et 50% à des platistes qui vont raconter n'importe quoi et que c'est la même chose et qu'il n'y a pas de problème avec ça et qu'on est OK pour dire c'est 50-50. Bah non. Et nous, on est obligé de dire à des médias qui sont censés représenter l'intérêt général, bah non. Bah non. Nous, on va pas sur un plateau comme ça. Moi, je vais pas discuter avec un platiste, quoi. C'est pas possible.
Quand je t'écoute parler, je me dis, voilà, est-ce que je ne serai pas assis à ta place prochainement avec quelqu'un qui me tendra ou pas un micro? Enfin, quand tu parles pour nous tous, tu parles pour moi aussi.
J'espère.
Donc je te remercie.
Mais j'espère, en fait, c'est ce qu'on essaye de faire.
Ouais.
Si y a une épidémie de cancer, on peut parler d'épidémie?
Ah, c'est pas moi qui me dis, c'est les médecins, en fait, qui parlent. C'est l'Inserm parle d'épidémie.
Si une épidémie, c'est pas parce qu'on n'a pas été vertueux et que Dieu nous punit d'avoir été vilain ou je sais pas quoi. C'est qu'il y a
c'est
des.
Pas une nuée criquée, non, c'est simplement. En fait, un truc logique qui est prévu, ça fait 60 ans, on dit, bah non, en fait, qu'on met des produits toxiques et dangereux qui sont fabriqués précisément pour tuer la vie, bah en fait, après, ça tue la vie. Enfin, en fait, c'est... et en plus, ça bousille les sols, ça bousille le climat, ça est en train d'éclater la planète et tout dans son ensemble. C'est complètement mortifère. J'avais lu un anthropologue qui disait, c'est la première fois dans l'histoire de l'humanité qu'en fait... l'être humain est en train de s'auto-détruire et que c'est complètement inédit. Il y a des gens qui disent, bah ouais, c'est normal, en fait, là, c'est OK, notre mode de fonctionnement, c'est de s'auto-détruire. Donc ils disaient, ouais, c'était inédit dans l'histoire de l'humanité, mais effectivement, peut-être même dans l'histoire de l'espèce animale et du vivant, quoi, de s'auto-détruire, et c'est normal. Et quand on dit, nous, on n'est pas d'accord et on a juste envie de vivre, on est des éco-terroristes. Et donc, il y en a bah, qui finissent au tribunal, comme certains d'entre nous, ou qui finissent avec un œil en moins. Il y en a qui, du coup, ont peur d'aller en manif, parce que maintenant, aller en manif, c'est devenu dangereux. Parce que maintenant, aller dire qu'on est contre la guerre et contre la mort, eh ben, c'est risqué de finir à l'hôpital, en plus de finir au tribunal. C'est ça.
Toujours avec Caroline Proust, du collectif Cancer Colère, on va repasser par le sénateur Duplomb qui remonte à la charge pour imposer l'acétamipride malgré la pétition à plus de 2 millions de signatures contre ce poison mortel.
C'est d'un cynisme complètement fou. En fait, ce qu'il dit... Non, mais le Conseil constitutionnel a retoqué sur la forme. Petit problème de virgule dans le texte. Il n'y a aucun problème sur le fond. Donc, s'il va passer par la porte, je le fais passer par la fenêtre en modifiant uniquement la forme hein, avec le même fond. Lui, le 2 février... Il a fait venir au Sénat toute une flopée de lobbyistes qui sont venus au Sénat pour raconter des trucs complètement fous. Des lobbyistes identifiés, quoi. Quelques jours après, il y avait la mobilisation un peu partout en France, le week-end du 7 et du 8. Le 11, la mobilisation à Paris. Donc tout ça en prévision de débat sur la pétition de la première loi Duplomb. Tout ça, c'est dans un mouchoir de poche, quoi. Il y avait ce débat-là. Et lui, quelques jours avant, il dit « Tiens, je vais en mettre une couche ». Enfin, on a l'impression quand même d'une grosse provocation. Quand on était à l'Assemblée le 11, il n'était même pas là d'ailleurs, mais ses petits camarades se laissaient pousser des ailes. Quelques jours avant, le 2, ils avaient vu le Sénat rempli de lobbyistes qui étaient là pour faire le job. Enfin voilà, on va revenir à la charge. Vous inquiétez pas les loulous, c'est pas parce que là, il y a la bande de gauchistes d'écolos qui a réussi à faire que le Conseil constitutionnel change une virgule, parce qu'en plus le reste de la loi est passé... Ce truc des gars qui s'en foutent, qui sont ultra cyniques et provocateurs, ouais, c'est ça. C'est donc le 2, et il y a Duplomb qui fait venir donc tous ces gars au Sénat.
7 et 8, donc nous, on commence à manifester. Et le 11, eh bien, ils font comme si de rien n'était. Comme si on n'avait pas été encore des milliers là, pendant la semaine à faire des actions partout en France et à Paris le 11. Comme si ça n'existait pas. Ils ne l'ont même pas dit, ils ne l'ont pas évoqué. Quoi. Qu'on venait de se remobiliser autour d'une pétition où il y avait plus de 2 millions de personnes. Quoi. C'est uniquement du mépris. Et ils en remettent une couche.
Potentiellement du mépris intéressé, je veux dire. Enfin, on n'affiche pas ce mépris-là gratuitement, ça doit avoir un prix.
Mais en plus, ils sont pas très malins. Quand on regarde des noms, il existe 2-3 médecins qui disent « Non, 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 les pesticides, c'est OK, tout ça. » C'est pas compliqué de regarder leur CV. Et très souvent, c'est vrai qu'on voit des liens assez évidents avec certaines industries chimiques, avec certains syndicats, enfin voilà, c'est pas très compliqué de voir. Et c'est pas parce qu'il y a 3 platistes ou gens qui ont des liens avec, c'est pas que les labos, hein, y a des labos, mais il y a aussi des liens politiques, enfin bon, mais qui se voient, quoi. Et ils sont minoritaires. Pour finir, sur du plomb, donc effectivement, il y a du mépris parce qu'il y a aussi, oui, des intérêts pour beaucoup. J'ai repensé à ce moment un peu fou à l'Assemblée, donc le 11 après-midi, où il y a un député à Rennes qui interpelle Genevard en l'engueulant. C'est un peu une comédie d'alerte.
Genevard, non, c'est la ministre des pesticides, de l'agriculture, pardon.
C'est l'assistante d'Arnaud Rousseau.
Le président de la FNSEA.
Non, j'allais dire le ministre de l'agriculture, Arnaud Rousseau. Donc, il y a une petite comédie d'alerte, voilà, où un député à Rennes a interpellé Annie Genevard en disant « Mais ça va pas du tout ce que vous faites, vous freinez le développement des fermes, enfin des fermes-usines, hein. Enfin, en fait il parlait des fermes-usines, vous freinez le développement des bassines, tout ça. » Et donc elle, en fait c'était un peu tragicomique cette espèce de mise en scène où elle était en train de ramper devant le RN. « Mais si, je vous jure, je fais tout ce que je peux. » Alors là pour le coup elle avait raison, hein. c'est pas faux. Hein. « Mais je fais tout ce que je peux, mais je peux pas, c'est à cause des écologistes, à chaque fois ils n'arrêtent pas de crier. » Et c'était complètement fou ce moment. En fait, c'était fou tout le temps. Hein. Il y a eu plein de moments où je me disais, mais on est où là? Là, elle est en train de ramper devant le FN. Mais si, je vous jure, je fais tout ce que je peux, c'est à cause des vilains écologistes. Il n'y a aucune décence, il n'y a aucun respect, il n'y a rien.
Espérons que Cancer Colère ne devienne pas un immense collectif transpartisan et... avec plein de membres, mais tel que c'est parti, peut-être qu'on va être nombreux et nombreux. Je le souhaite pas, évidemment, hein, mais voilà, on est tous concernés, hein, et quels que soient les âges, du plus jeune, du nourrisson, jusqu'aux anciens, avec tous les âges intermédiaires.
C'est comme les Restos du Cœur, c'est qu'en fait, on espère ne plus avoir à exister le plus vite possible. Sauf que malheureusement, on a peur de devoir être là pendant encore un moment. C'est l'effet Resto du Cœur, quoi. C'est fait pour, au départ, pallier à un gros manque de l'État et à un gros problème et pour alerter et pour essayer d'aider. C'est une initiative citoyenne, pareil. On dit aux camarades de toutes les luttes qu'on croise en ce moment, c'est que malheureusement, on est amené à se revoir et bon, bah, c'est un côté bien aussi, hein, parce que comme je rappelle aussi, la lutte est belle, elle est dure. On est David contre Goliath, mais la lutte est belle.
Et si on a tous la détermination et la joie de vivre de Caroline, qu'on remercie, on va gagner. Vous pouvez trouver toutes les infos cancer colère sur Internet. Jeunes, moins jeunes, vieux, nous sommes tous concernés et menacés par les cancers et autres maladies dues à ces empoisonnements volontaires contre lesquels il faut se révolter. Vous pouvez télécharger cette émission et la faire tourner en passant par notre site polymixetlavoixoff.com. Avant qu'on ne se retrouve très bientôt sur votre radio encore libre préférée, ce n'est qu'un combat. Continuons le début. Salut.